écoutez Radio France Internationale. Il est 2h ici à Paris, 1h en temps universel, toujours en 2024 au Brésil. Si vous nous écoutez depuis l'archipel des Açores, on vous souhaite une joyeuse entrée en 2025.
Galibonin.
Les vœux du président français Emmanuel Macron, naïveté européenne, potentiel référendum et mea culpa à demi-mot pour la dissolution de l'Assemblée, nous ferons le point sur son allocution dans un instant. Des allocutions aussi en Afrique de l'Ouest où des présidents pressent le départ des troupes françaises. Les présidents sénégalais et ivoiriens ont détaillé les scénarios dans leur pays. Et en Chine, Xi Jinping a fait le point sur l'année qui vient de s'écouler, mais aussi celle qui se présente. Un point en ligne de mire, l'inarrêtable réunification avec Taïwan, selon ses propres mots. Quel bilan dressé de la présidence de Viktor Orban au Conseil européen? Le Premier ministre hongrois a irrité ses voisins durant son mandat. Après 6 mois, la Pologne prend le relais. On commence ce journal avec des souhaits de bonne année bien particuliers. Ils nous viennent du milieu de l'océan Pacifique, de la part de Violette d'Orange, participante du Vendée Globe. C'est la plus jeune de la compétition. Elle nous a envoyé un message juste avant de passer le point Nemo. C'est le point imaginaire le plus éloigné de toute Terre. À 23 ans, Violette d'Orange fête donc le nouvel an seul. On peut l'écouter.
Bon, bah, cette année, je vais passer le nouvel an toute seule pour la première fois de ma vie. Et en plus, je crois que je passe le point Nemo à minuit et quelques, minuit 10, quelque chose comme ça. Donc, c'est le premier du 2025. Donc, c'est assez fou. Je suis pas trop triste, en réalité, de rater la fête à terre. Parce que je vis quelque chose d'incroyable et je suis trop contente. Belle année à tous et à bientôt!
Violette d'Orange qui nous a souhaité la bonne année depuis le milieu de l'océan Pacifique. Et lui, il nous l'a souhaité dans le jardin d'hiver de l'Élysée. Emmanuel Macron qui a présenté ses vœux pour l'année suivante. Après une année très compliquée sur le plan politique, le président français est revenu sur la dissolution du 9 juin. Il a fait une forme de mea culpa en reconnaissant que sa décision avait apporté davantage de divisions à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Le président est conscient de ne plus avoir toutes les cartes en main, Raphaël Del Volvé. Il a voulu montrer tout de même qu'il servait encore à quelque chose et même qu'il gardait du pouvoir.
Un peu plus de 10 minutes, Emmanuel Macron n'avait jamais fait aussi court pour des vœux. Le temps pour lui d'appeler les forces politiques à l'adoption d'un budget, à assainir les finances publiques et à trouver des compromis pour assurer la stabilité du pays. Sans possibilité d'impulser de grandes orientations politiques en raison de sa dissolution, le président est certes surtout un garant mais conserve des domaines réservés, la politique étrangère et militaire, d'où un long passage sur l'Europe qu'il appelle au réveil, à sortir de la naïveté et à se prendre en main sur sa sécurité. En référence aux menaces russes, à la guerre au Proche-Orient, mais aussi à l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Emmanuel Macron a également rappelé qu'il lui restait des pouvoirs. En 2025, il assure vouloir demander aux Français de trancher des sujets déterminants. Annonce-t-il par là un ou des référendums, affaire à suivre. On notera également une innovation sur la forme. L'allocution a débuté sur des images avec la voix du président en fond. Des images de succès français en 2024, les Jeux Olympiques, Notre-Dame de Paris ou encore l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Comme pour donner, ou plutôt essayer de donner de l'espoir à une France plongée dans une crise politique inédite.
Raphaël Del Volvé et Emmanuel Macron qui a également ouvert la porte à des consultations populaires, comme on le disait. Il a dit qu'il allait demander aux Français de trancher des sujets déterminants en 2025. Mais selon la porte-parole Écologie Les Verts, Aminata Niakate, le président ne propose aucune solution pour les 2 ans et demi de mandat qui lui restent.
J'ai le sentiment qu'il propose pas vraiment de solution, donc il propose une consultation, donc peut-être un référendum en 2025. Voilà, on a déjà connu les grands débats, on sait que ça finit un petit peu en autre boudin, donc je suis pas très optimiste. D'accord. J'ai un peu peur des sujets qu'il n'annonce pas. Donc, ça peut être sur l'immigration, par exemple, parce qu'il y a une espèce d'obsession sur la question migratoire dans le gouvernement depuis un certain temps, et les nominations qui a eu au sein des différents gouvernements aussi ne sont pas tout à fait rassurantes sur la matière. Finalement, je ne pourrais pas dire quel jalon il pose sur les 2 ans de mandat qui lui restent.
La porte-parole écologie Les Verts, Aminata Niakate. En Afrique de l'Ouest, les dirigeants francophones ont insisté sur l'importance de récupérer les bases militaires aux mains des Français. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé que l'armée ivoirienne allait récupérer un camp près d'Abidjan. Le départ des forces françaises est prévu dès le mois de janvier. Et au Sénégal, le départ était annoncé, mais on sait maintenant pour quand il est. Bassirou Diomaye Faye a affirmé que toutes les forces étrangères basées dans le pays devront quitter en 2025, un objectif affiché depuis l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités en mars à Dakar, mais qui s'est précisé dans les derniers mois après des interventions du président et du premier ministre. En Corée du Sud, le président déchu Yoon Suk-yeol est visé par un mandat d'arrêt et de perquisition. Depuis sa tentative ratée d'imposer la loi martiale le 3 décembre, le chef d'État a refusé de comparaître à toutes ses convocations en justice. Aucun calendrier n'a encore été établi par le bureau d'enquête chargé du dossier. De son côté, l'avocat de Yoon Suk-yeol assure que les mandats émis contre son client sont illégaux et invalides. En Chine, le président a dressé son bilan de 2024 dans une adresse à la nation. Xi Jinping a abordé les différents défis auxquels le pays fait face, difficultés économiques, mauvaises relations avec les États-Unis et surtout le dossier taïwanais. Le président chinois a assuré que personne ne peut arrêter la réunification, une déclaration forte au moment où Pékin intensifie la pression sur l'île indépendante de facto depuis 1949. Nicolas Roca.
Un drapeau de la Chine à sa droite, la grande muraille en fond et une ferme volonté de réunifier la nation. Après une année 2024 marquée par des exercices militaires à grande échelle et une intense pression des avions de chasse chinois autour de l'île, il aurait été étonnant de ne pas voir Xi Jinping évoquer l'épineux dossier taïwanais dans ses vœux aux Chinois.
Les Chinois des deux côtés du détroit de Taïwan font partie d'une seule et même famille. Personne ne peut rompre nos liens de sang et personne ne peut arrêter la tendance historique de la réunification de la mère patrie.
Alors que Xi Jinping n'exclut pas la possibilité d'une réunification par la force, l'état de l'armée chinoise interroge. Si les dépenses dans le secteur de la défense augmentent, la campagne anticorruption dans l'armée s'est largement poursuivie en 2024 avec la purge de plusieurs hauts gradés. Autre difficulté de cette année qui s'achève, une économie chinoise à la peine, minée par la crise de l'immobilier et une consommation en berne.
Nous devons mettre en œuvre des politiques plus proactive, nous concentrer sur un développement de haute qualité, promouvoir une autonomie scientifique et technologique de haut niveau et maintenir la bonne dynamique du développement économique et social.
Depuis septembre, Pékin multiplie les tentatives de relance de son économie, une politique que Xi Jinping pourrait poursuivre et intensifier en 2025.
Nicolas Roca. Et c'est un premier signe du désir d'ouverture de la Corée du Nord. Pyongyang a annoncé l'ouverture prochaine d'une station balnéaire, une première grosse étape pour développer le tourisme, assure la presse d'État. Dans des images diffusées, on voit le dictateur nord-coréen Kim Jong-un se promener le long de la mer en compagnie de sa fille. Durant une visite dans le complexe hôtelier, le chef d'État a exprimé sa grande satisfaction. 2h08 à Bruxelles depuis maintenant 2h, la Pologne qui a pris la tête de la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Elle succède à la Hongrie à ce poste où les pays de l'Union européenne se relaient chaque 6 mois. Depuis juillet, le premier ministre hongrois Viktor Orban, des plus proches soutiens de Moscou, a pu irriter ses partenaires, mais son bilan a aussi été marqué de succès. À Bruxelles, le compte-rendu de Lakshmi Lotha.
Make Europe Great Again, c'est le slogan qu'avait choisi la Hongrie pour sa présidence de l'Union européenne. Une référence à Donald Trump qui a pu ennuyer certains dirigeants parmi les 27. Le premier ministre hongrois a exaspéré ses collègues à plusieurs reprises ces 6 derniers mois. En juillet, Viktor Orban s'est par exemple rendu à Kiev, puis Moscou et Pékin sans mandat européen. Il a rencontré le président russe malgré la position européenne de soutien total à l'Ukraine et d'isolement de la Russie. Viktor Orban a défendu son mandat lors du dernier sommet européen. Il y a 2 options, soit on mène une présidence politique, soit une présidence bureaucratique, a-t-il dit. J'ai opté pour des décisions politiques. Ses partenaires reconnaissent les avancées menées par la Hongrie. La Roumanie et la Bulgarie feront pleinement partie de l'espace Schengen le 1er janvier. La présidente de la Commission européenne évoque également la déclaration de Budapest adoptée le mois dernier, un texte ambitieux sur la compétitivité de l'Europe. Laxmilota, Bruxelles, RFI.
Et voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Si vous êtes encore une fois dans l'archipel des Açores, on vous souhaite un bon début d'année 2025. Et pour les autres, on arrive. Restez là.